Alors, la vérification traditionnelle, est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon. Ravi de vous retrouver pour cette ultime séance de notre année de confrontation. Et donc, pour cette réunion de ce soir, nous avons invité deux personnalités qui vont pouvoir, je pense, échanger, qui se connaissent, qui vont pouvoir échanger très facilement sur un thème qui est à la fois classique, mais qui permet d'être enrichi de la nombreuse actualité, à savoir, en gros, les rapports entre religion et politique, ou tout au moins le positionnement des catholiques en France. Les débats éthiques de ces dernières années, vous savez, le mariage pour tous, la PMA, ont poussé sur la place publique des catholiques plutôt attachés, eux en tout cas, j'essaye de ne pas caricaturer naturellement cette présentation, mais attachés à la défense de leurs valeurs. Alors est-ce que c'est le signe d'un retour sur le devant de la scène d'un courant conservateur de l'Église, soucieux d'afficher plus clairement son identité? Est-ce que ça marque le déclin définitif d'une Église de l'après-mai 68, qui, elle, se présentait comme celle aussi de l'après-concile, et qui était peut-être beaucoup plus discrète et plus portée sur des engagements socio-économiques? Et bon, on a tous connu un peu le débat sur l'Église enfouie et l'Église promontoire. Donc c'est un arrière-plan qui sera sous-jacent dans cette intervention. Je pense que ça fait appel aussi, cette thématique, à différentes approches qui nous sont également à la fois familières, mais qui méritent à chaque fois d'être réanimées en fonction de cette actualité permanente. Je pense à cette remarque de Jean-Louis Schlegel quand il disait « Est-ce que c'est une parenthèse entre l'après-concile ou pas ?» Je pense à une autre image qui est celle du balancier. Alors c'est une image qui est très courante dans l'analyse politique. Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi à l'analyse justement de l'Église par rapport à cette société? Je pense aussi que Yann Raison-Duclusiou parle dans son bouquin des observants. On peut peut-être aussi évoquer le fait que dans les années 68-70, il y avait peut-être des formes de néo-protestants. Les sociologues et les sondeurs parlent beaucoup des pratiquants. Donc il y a des mots pratiquants, observants, protestants, qui sont toujours l'image de peut-être d'une difficulté à bien définir les catholiques et les différentes familles qui composent cette communauté catholique, mais aussi chrétienne, puisque là encore, il s'agit de savoir si on définit le sujet par rapport à seulement la France ou par rapport seulement aux catholiques. Donc c'est toutes ces premières approches que je me suis permis de vous livrer en vous présentant nos deux invités. Donc Denis Pelletier, à ma gauche, sans sourire, puisque le thème c'est les cathos, alors virgule, hein, de gauche à droite, ou point d'interrogation, naturellement, ce n'est pas une affirmation. Denis Pelletier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Il est auteur de nombreuses publications, dont un ouvrage collectif, que voici, qui est paru en 2012, à la gauche du Christ, et qui est... Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui est une remarquable somme pour balayer toute cette période depuis la guerre, en commençant par la résistance jusqu'à nos années actuelles, avec tous les frémissements, tous les mouvements qui ont pu s'agiter dans les années 60, 70, 80, avec beaucoup de contributions, dont d'ailleurs une contribution de Yann Raison-Duclusiou. Donc Denis Pelletier a été l'un des deux directeur de ce bouquin avec Jean-Louis Schlegel, et donc il est à même peut-être d'assurer le meilleur des contrepoints à Yann Raison-Duclusiou, que je ne vais pas présenter puisqu'il est un ami et un membre de Confrontation, qui lui donc est maître de conférences et de sciences politiques à l'université de Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim et également auteur de deux, alors je prends les deux derniers récents ouvrages, donc celui-ci, dont on a déjà parlé ici à Confrontation, qui est une contre-révolution catholique aux origines de la Manif pour tous. Voilà. Et un autre livre qui est paru également récemment parmi ses publications, De la contemplation à la contestation, la politisation des dominicains en France dans les années 40-70. Voilà. Donc, nos deux invités, naturellement, ont de nombreuses autres publications à leur actif. Mais il s'agit aujourd'hui de se concentrer sur cette approche en partant du bouquin le plus récent, c'est le plus simple, mais en souhaitant naturellement que nos deux invités dialoguent entre eux avant que vous-même vous puissiez éventuellement, bien entendu, et on le souhaite, participer à cet échange. Je propose donc à Yann de commencer pour nous rappeler ce livre dont il nous a déjà parlé, mais pour nous rappeler un petit peu la tonalité de ce bouquin. Et je reprends un petit peu cette formule. Est-ce qu'il s'agit en effet d'un retour à une certaine forme de normalité sur un noyau dur de l'Église ou pas? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un phénomène qui fait référence à une actualité portant sur des sujets de société, des sujets de bioéthique? Et contrairement aux années 70-80 qui étaient plutôt sur les sujets socio-économiques, est-ce que c'est là aussi l'une des différences? Bien entendu, Yann est le mieux placé pour déjà répondre à cette approche.
Merci Dominique. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je vais essayer de vous proposer quelques éléments de réflexion à partir de ce livre récent, Une contre-révolution catholique, quelques éléments de réflexion pour alimenter, je dirais, cette discussion sur le rapport des catholiques à la politique. Alors, je vais tout d'abord commencer par ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire immédiate du catholicisme français, puisqu'auparavant, je m'étais plutôt intéressé aux années 60 et 70, et un catholicisme par conséquent militant également, mais ayant une orientation politique tout à fait différente de celui sur lequel je viens de travailler. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est un constat paradoxal. En France, si on regarde toutes les statistiques, bon, le catholicisme, toutes les formes de pratiques catholiques sont en déclin, c'est documenté, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc le catholicisme est en déclin, et le catholicisme a même atteint, je dirais, un niveau de pratique dont la faiblesse n'a pas de précédent. Si on prend l'enquête Bayard-Ipsos que j'ai dirigée avec Philippe Sibois, en 2016, on a 1,8% de pratiquants hebdomadaires. Alors, c'est un chiffre qui est probablement un peu à réévaluer parce que la méthodologie de l'enquête c'était un questionnaire passé sur Internet, ce qui excluait donc une partie des pratiquants potentiels plus âgés. Mais enfin, cela dit, si on prend ce chiffre ou d'autres chiffres, on est autour de 2-3%. Donc, on a une pratique catholique extrêmement faible. Et en même temps, et c'est ce qui est paradoxal, depuis quelques années, le catholicisme est revenu au centre des débats, il est revenu au centre d'un certain nombre de controverses politiques, et il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de discussions sur son poids. Alors, son poids principalement à droite, hein, c'est son poids principalement à droite dont il a été question. Et effectivement, le catholicisme a attiré l'attention pour diverses raisons. Tout d'abord, la manif pour tous. Hein, la manif pour tous entre l'automne 2012 et le printemps 2013, qui est un mouvement social qui, dans l'histoire de la Ve République et a fortiori dans l'histoire des droites, est un mouvement extrêmement important. Par son ampleur, hein, à la fois le nombre des manifestants et puis la durée. Hein, la durée aussi d'un mouvement social, c'est quelque chose d'important. Et donc la manif pour tous a structuré l'opposition à François Hollande. Et donc c'est un phénomène politique intéressant et qui a surpris. Quelques années plus tard, on a eu de nouveau une focalisation sur les catholiques au moment de la primaire de la droite et du centre en novembre 2016, puisque le succès inattendu de François Fillon à la primaire a été interprété comme un effet du catholicisme politique et comme un second temps de ce qu'a été la mobilisation de la manif pour tous. Plus récemment, on a eu aussi quelque chose d'intéressant, le fait que Laurent Wauquiez soit allé chercher François-Xavier Bellamy pour conduire la liste des Républicains pour les élections européennes, une élection qui avait beaucoup d'enjeux pour ce parti dans la mesure où de cette élection devait ressortir une reconstruction, une relégitimation de ce parti lourdement impacté par l'exclusion de son candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, prenons un quatrième exemple paradoxal, ce qui s'est joué autour de l'incendie de Notre-Dame. Alors, loin de moi, l'idée de dire que autour de cet incendie de Notre-Dame, il y aurait eu un réveil de la foi catholique. Non, je suis assez sceptique à l'égard de ce type de récit. Mais néanmoins, nous avons pu écouter un président de la République déclarer « Reconstruire Notre-Dame, c'est notre destin ». Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement surprenant dans un pays qui aime mettre sa laïcité en avant. Et c'est une manifestation de ce que j'appelle la catholaïcité, qui est assez paradoxale. N'oublions pas que nous aimons beaucoup parler de la séparation des églises et de l'État, certes, mais les cathédrales appartiennent à l'État et les églises aux communes, et donc cette séparation est tout sauf une séparation bien nette. Émile Poula aimait utiliser une expression que je trouve, une illustration très parlante, je trouve, de cet état. Il disait, entre l'Église et l'État, il y a eu séparation de corps, mais non de biens. C'est comme un couple qui divorcerait, mais qui conserverait le même lit. Effectivement, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on a eu un retour, un regain d'intérêt autour du catholicisme. Mais attention, il ne faut pas oublier ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Les statistiques continuent de décliner. C'est-à-dire que la pratique catholique, comme ressource de construction de soi, elle est en voie de marginalisation et rien n'atteste qu'il y ait une inversion de tendance. La pratique catholique comme ressource de construction de soi, elle est en voie de marginalisation. Mais, et c'est ça qui est surprenant, comme ressource d'énonciation de l'identité nationale, comme ressource d'engagement militant, ou même comme ressource pour partager une émotion, ou pour dire l'unité nationale, le catholicisme reste légitime. Allez, je suis tenté de prendre un dernier exemple pour montrer à quel point c'est paradoxal. La messe d'obsèques de Johnny Hallyday. N'allez pas me faire dire que c'est un grand moment où l'âme catholique se réveille. Non, c'est pas ce que je pense. Mais une forme de deuil national, un pic, je dirais, catharsique, d'expression de l'émotion a pu être véhiculé par une messe sans que ça suscite, je dirais, de contestation. Elle a quelque chose quand même de très surprenant. Alors, pour essayer de travailler sur ce phénomène, je me suis appuyé sur les enquêtes antérieures auxquelles j'ai pu travailler, l'enquête bien sûr de confrontation qui a été publiée dans Qui sont les cathos, et puis l'enquête que j'ai faite pour le groupe Bayard. Parce que quand on travaille sur le catholicisme, on voit bien que la Manif pour tous, Sens commun, François-Xavier Bellamy, je dirais toutes ces figures militantes, ce ne sont pas des figures militantes qu'il faut identifier au catholicisme français. Il ne faut pas confondre la partie avec le tout. Il s'agit, la Manif pour tous, c'est un mouvement dans lequel se sont engagés des catholiques, mais ça n'est pas l'expression du catholicisme dans son ensemble. Et il ne faut pas identifier la Manif pour tous à l'ensemble du catholicisme, ce serait faire l'impasse, ce serait, je dirais, valider deux illusions, faire comme si tous les manifestants étaient catholiques, ce qui était faux, et faire comme si tous les catholiques étaient manifestants, ce qui était faux également. Donc, s'intéresser sur ce moment politique du catholicisme, c'est travailler sur un certain catholicisme. Car ce moment, il s'appuie sur la dynamique militante d'un certain catholicisme. Ces catholiques, ce sont ceux que j'appelle les catholiques observants. Ce sont ceux que j'appelle les catholiques observants. Qui sont-ils ? C'est une minorité, tout d'abord. C'est une minorité dans le catholicisme actuel. Bien. Mais c'est une minorité qui s'est construite, je dirais, à partir des années 70, dans une position de critique et de défiance à l'égard de la pastorale post-conciliaire. Non pas à l'égard du Concile Vatican II, mais à l'égard de ce que ces catholiques interprétaient comme une mise en œuvre excessive du Concile. Ces catholiques ont, dans les années 70, je dirais, oscillé entre le maintien dans les diocèses, en adoptant une posture un petit peu réservée, et puis rejoindre des contestations plus affirmées, que ce soit du côté du traditionalisme ou que ce soit du côté des communautés charismatiques. Ces univers dont les formes liturgiques peuvent paraître extrêmement opposées ne le sont pas tant que ça quand on s'intéresse à leur foyer de recrutement qui correspond à ce que j'appelle ce catholicisme observant, une catégorie de travail pour désigner cette partie et ne pas confondre cette partie avec le tout, ne pas leur attribuer le monopole de l'étiquette du catholicisme. Ces observants, ils étaient très souvent hostiles à la minorité militante d'alors. Ce catholicisme qu'on appelle le catholicisme de gauche, qui est représenté par la fine fleur des militants et par une partie du jeune clergé qui est politiquement positionné plus à gauche que ses aînés. Ces catholiques observants se placent donc en réserve et je dirais ils vont se construire comme un conservatoire des pratiques catholiques qui se trouvent disqualifiées, selon eux, par la pastorale post-conciliaire. Et ils vont se faire un conservatoire, finalement, de ce que Guillaume Cuchet, dans son ouvrage « Pourquoi notre monde a cessé d'être chrétien », de ce que Guillaume Cuchet appelle la culture de l'obligation sous peine de péché mortel. Il y a un peu de ça, vous voyez, le maintien de cette attention aux normes, à la discipline qui structurait le catholicisme, je dirais ordinaire, avant le Concile, et ces éléments de normes, de rapport aux normes, à la discipline, prenez l'exemple, par exemple, prenez le jeûne eucharistique, la pratique du jeûne eucharistique, la pratique de la confession, sont marginalisés dans les années 70, et ces catholiques-là, eux, s'y attachent comme des éléments indispensables de la pratique. Et donc, ce catholicisme observant va se structurer comme un milieu de famille, parce que ce sont ces familles qui vont prendre en charge la transmission de la foi, parce qu'elles estiment que les paroisses ne sont plus tout à fait fiables, les paroisses ou les enseignements catholiques pour transmettre la foi. Ces catholiques vont ensuite nouer, je dirais, une sorte d'alliance stratégique avec Jean-Paul II et puis avec Benoît XVI, qui sera vraiment le pape qu'ils attendaient. Ils vont se faire les défenseurs du magistère contre les évêques ou contre le clergé diocésain qu'ils estiment tiède à mettre en œuvre la doctrine magistérielle. Et surtout, ils vont affirmer leur différence avec le catholicisme dominant sur la défense de la vie, sur les questions qui portent sur le corps. Puisque à partir d'Humanae Vitae, publié par Paul VI durant l'été 68, le corps devient un nouvel espace, un nouvel enjeu de l'affrontement entre le catholicisme et l'orientation que prennent les sociétés occidentales. Et ces catholiques donc vont se construire comme papistes, défenseurs de la vie, et progressivement ils vont se structurer sur ces combats de défense de la famille, de défense de la vie, c'est-à-dire dénonciation de l'avortement à partir de 1972. Ces catholiques, parce qu'ils sont très, ils font de la question du corps et de l'usage légitime du corps, ils en font un élément capital de la définition de ce qu'est pour eux l'orthodoxie et l'orthopraxie catholique. Et donc, ils font de l'engagement dans ce combat une forme de test pour mesurer qui est vraiment catholique. Eux s'estiment les vrais catholiques parce qu'ils portent ce combat, et ils ne cessent de dénoncer les évêques parce qu'ils ne portent pas suffisamment ce combat. Ces catholiques intériorisent dès les années 70 un sentiment de minorité investie d'une mission universelle. Ils se pensent comme une minorité active, je dirais, sur deux plans. Ils se pensent comme les vrais catholiques qui doivent restaurer la pleine catholicité de l'Église, selon eux, attiédis. Et ils se pensent en tant que vrais catholiques comme, je dirais, les porteurs de ce qu'est l'authentique identité française. Et donc, leur combat va prendre une double dimension. Leur combat va se situer entre deux fronts. restaurer l'Église pour restaurer la France. Alors, ces catholiques, je dirais, ils vont prendre une importance croissante à partir du moment avec la montée en puissance des questions éthiques et avec la montée en puissance des nouvelles technologies qui ouvrent des usages du corps, des manipulations du vivant tout à fait inédites d'un point de vue historique. Ce catholicisme prend de l'importance dans les années 90 parce qu'il y a les lois bioéthiques, les premières lois bioéthiques qui sont votées en 1995 et puis il y a l'adoption du pacte en 1999. Et pour ces catholiques, je dirais que ce calendrier législatif vient marquer, je dirais, la fin d'une sorte de concordat implicite qui existait entre l'Église catholique et la République depuis la loi Debré de 1959. Pour eux, il y a la fin d'une sorte de concordat implicite, puisque, à travers les lois bioéthiques et à travers le Pax, la République a franchi son droit des derniers éléments de morale chrétienne qui y demeuraient à l'état de rémanence. La République entre donc dans une étape supplémentaire du processus de sécularisation, c'est-à-dire de l'émancipation par rapport aux valeurs chrétiennes, et ces catholiques-là comprennent dès les années 90 que, par conséquent, il est vain de... ils comprennent que le catholicisme ne peut plus s'appuyer sur la rente de situation de religion majoritaire dont il jouissait, je dirais, historiquement. Et donc, ils vont chercher à contrer les effets de ce désétablissement. Il y a, au-delà des lois bioéthiques, il y a d'autres transformations de la société française qui vont aussi nourrir la dynamique militante de ce catholicisme-là. Il y a, dans les années 90, à partir des années 90, la visibilité croissante de l'islam. Cette visibilité croissante de l'islam, elle aboutit, vous le savez, à une étape supplémentaire, à une redéfinition de la définition de la laïcité. C'est l'objet de la loi sur les signes religieux ostensibles de mars 2004. Alors c'est une redéfinition du principe de la laïcité, puisque si on prend la loi de 1905, c'est une loi dont le principe est libéral, c'est-à-dire que son objectif est de défendre la liberté de conscience, et la condition de la liberté de conscience, c'est la neutralité de l'État. La loi de mars, la loi sur les signes religieux ostensibles, elle étend ce principe de la neutralité. Elle le spatialise, puisque désormais il n'y a plus que... La neutralité ne s'applique plus exclusivement aux agents de l'État, elle s'applique également à ceux qui viennent dans l'école, qui est transformée de ce fait en sanctuaire républicain. Et donc cette spatialisation, elle aboutit à une régression, bien sûr, des libertés religieuses. Et les catholiques voient donc leur liberté religieuse régresser, alors même qu'ils ne sont pas ceux qui sont visés par cette loi. Ils s'estiment donc, ces catholiques observants, s'estiment donc qu'il y a là une forme d'étau. D'un côté, il y a une visibilité croissante de l'islam qui rappelle aux catholiques, qui renvoie les catholiques à l'image de leur propre déclin. Et puis, de l'autre côté, en réaction, il y a la montée en puissance d'une conception plus stricte, plus exigeante, plus extensive de la laïcité, ce qui aboutit à une régression des libertés catholiques. Et puis, je dirais, il y a un troisième élément de contexte, c'est que l'exculturation, hein, pour reprendre ce concept élaboré par Daniel Hervieux-Léger, c'est-à-dire le fait que les Français perdent la culture chrétienne et donc perdent l'intelligibilité de ce qui est fait, de ce qui vient de la matrice catholique dans leur univers symbolique et patrimonial, cette exculturation, elle a des effets. Et vous savez, dans les années 90, le début des années 2000, il y a tout un tas de controverses, de remise en cause du rôle historique du catholicisme, que ça passe par le film Amen de Costa Gravas, par le traité de la théologie de Michel Onfray, etc. Et René Raymond qualifie ce moment, parle de l'affirmation d'une nouvelle forme d'antichristianisme. Donc vous voyez, ces catholiques, dans ce contexte, ils prennent conscience que désormais le catholicisme est minoritaire, qu'on ne peut plus s'appuyer sur la rente de situation de ce qu'a été la situation du catholicisme dans l'histoire de la France, c'est-à-dire une majorité, et donc il faut déployer des moyens militants pour contrer les effets de cette minorisation. Alors ce déploiement militant, j'en raconte tout le, J'en raconte un petit peu tous les champs. Il y a une oscillation permanente au sein de ces catholiques observants qui réfléchissent sur la manière de contrer l'effet de cette déstabilisation. Est-ce qu'il faut se retirer de la société, bâtir des bastions pour transmettre la foi? Il y a toute une controverse en 2007 sur l'opportunité d'un communautarisme catholique, par exemple. Et puis il y a ceux qui disent, mais non, pas du tout, le catholicisme est l'âme de la France, donc il ne faut pas se mettre en marge de la société, il faut au contraire toujours plus s'engager dans la société pour contrer l'effet de notre minorisation. Mais tout ça va prendre un tournant, cette entreprise militante, elle se traduit aussi bien par l'essor, par exemple, des écoles hors contrat. Vous voyez, vous avez au sein de ces catholicismes, de ces catholiques observants, il y en a un certain nombre qui trouvent que le contrat d'association avec l'État, il a perdu sa valeur. Il était un moyen de protection de l'enseignement catholique. En raison de la sécularisation de l'État, il devient potentiellement un moyen de subversion du catholicisme. En septembre 2000, il y a par exemple l'introduction du PACS dans le programme d'éducation civique. Et ça suscite au sein de ce catholicisme observant beaucoup de craintes. À l'époque, quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qui l'est depuis, Anne Coffinier, dit « Cela montre bien que ce contrat d'association devient le cheval de Troie de valeurs qui ne sont pas les nôtres dans nos établissements. Par conséquent, il faut sortir du contrat d'association pour préserver le catholicisme. » Et donc, elle va créer, quelques années plus tard, l'association créer son école pour promouvoir la reconstruction du secteur de l'enseignement catholique sur le hors-contrat. Vous avez aussi ceux qui réfléchissent à la manière de peser d'un point de vue politique. Vous allez avoir beaucoup de controverses autour de la note du cardinal Ratzinger sur la politique qui est publiée en 2002. Joseph Ratzinger y dénonce le relativisme culturel. Il affirme que se compromettre avec ce relativisme culturel par une stratégie du moindre mal, c'est très grave. Et ça n'est pas une attitude authentiquement prophétique, comme les catholiques devraient l'avoir. Et donc, vous avez un certain nombre de catholiques qui se disent, mais dans notre rapport au vote, il faut revenir à des exigences confessionnelles. On ne peut plus être arrimé de manière massive à la droite de gouvernement, qui est le parti qui reçoit, je dirais, le plus le vote des catholiques pratiquants. Ça n'a pas changé depuis les années 70. Donc il faut de nouveau exiger une transaction en faveur de nos valeurs. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'émergence de cet univers militant des trois points non négociables qu'il faudrait monnayer électoralement. Et donc toute cette dynamique militante, elle va ensuite se traduire par la Manif pour tous, dont je raconte l'histoire, mais qui est quelque chose qui est mieux connu, donc je ne vais pas insister là-dessus. La Manif pour tous, qui est un mouvement social d'ampleur, qui est à la fois une réussite, parce que ça a fait émerger une ressource militante à laquelle plus personne ne croyait, mais c'est bien sûr également un mouvement social qui échoue, puisque la loi est adoptée. Et par conséquent, pour gérer ce capital militant qui a émergé et travailler à des victoires futures, il va y avoir toute une multitude d'initiatives qui vont se déployer, d'initiatives militantes qui se déploient après la Manif pour tous. Il y a la création du Parti Sens Commun, qu'on a beaucoup présenté comme l'émanation de la Manif pour tous. Ce que je montre, c'est que ce parti n'a jamais fait de l'unanimité, qu'il a été dénoncé par beaucoup qui considéraient que une alliance avec les Républicains ne pouvait pas être une stratégie viable pour la Manif pour tous, que ça ne pouvait être qu'une forme de compromission. Certains ont beaucoup milité pour un ralliement au Front National. Donc on a là tout un déploiement politique. Et puis aussi, il y a un travail sur les idées. Il y a la création de revues, il y a la création de fondations, de think tanks, comme Fonder Demain, l'avant-garde et puis la revue Limite, mais qui naîtra quelques années plus tard. Donc on a tout un redéploiement militant. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette dynamique, qui est une dynamique minoritaire, mais elle a eu des effets considérables. Parce que je crois qu'il y a, que le moment était favorable. Et là, il faut insister sur, je dirais, le moment de l'histoire de France et de l'histoire même européenne que nous vivons pour comprendre pourquoi cette dynamique militante interne au catholicisme, elle a rencontré autant d'échos. On est dans un moment qui est quand même caractérisé par une montée en puissance de la préoccupation identitaire, qui est liée à la fois à l'afflux de migrants en Europe et bien sûr au terrorisme islamiste. Et cette préoccupation identitaire, elle aboutit à ce que le catholicisme puisse apparaître comme une ressource identitaire, une ressource pour dire quelle est la culture française ou quelle est la culture nationale légitime. Et on a la montée en puissance de ce recours aux racines chrétiennes dans un certain nombre de discours politiques, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et d'ailleurs en France, c'est peu de choses par rapport à ce que ça peut être, par exemple en Hongrie ou même en Italie, quand Matteo Salvini brandit des chapelets. Bien qu'il ne soit pas certain qu'il sache exactement comment l'utiliser. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que le catholicisme est mobilisé comme une frontière culturelle. Comme une frontière culturelle, non pas comme une foi, mais comme une manière de dire quelle est la culture majoritaire. Et donc, c'est une manière de dire qui est l'étranger et qui restera étranger. C'est un catholicisme mobilisé comme frontière pour rappeler aux Européens musulmans qu'ils ne seront jamais des Européens comme les autres tant qu'ils resteront musulmans. Donc on a là ce recours aux racines chrétiennes, ça n'est pas un retour du religieux, c'est une forme, je dirais, de sécularisation, une étape supplémentaire du processus de sécularisation dans la mesure où le catholicisme est totalement assujetti à une rationalité politique. Et pour moi, en France, il en va de même de l'ostension des crèches dans les mairies, par exemple, ou du fait que Robert Ménard s'oppose à l'ouverture de kebab dans la ville de Béziers au nom des valeurs judéo-chrétiennes. Bien, donc vous avez cette dynamique-là qui est favorable à, je dirais, une certaine circulation sous une forme politique du catholicisme. Et bien sûr, ça suscite des tensions au sein du catholicisme. Est-ce qu'il faut se rallier à ce discours sur les racines chrétiennes? Certains y voient au contraire une forme de scandale, puisqu'on fait dire, on utilise le christianisme, pour légitimer des politiques qui seraient contraires aux valeurs évangéliques. Donc certains dénoncent cette instrumentalisation, mais d'autres sont tentés d'appuyer ces revendications. Pourquoi ? Parce que cette patrimonialisation du catholicisme, elle permet aux catholiques de rester, je dirais, de conserver un statut de majorité alors même qu'ils sont devenus minoritaires. Il y a un autre élément, oui, je vais bientôt m'arrêter. Il y a un autre élément, c'est, je dirais, d'un point de vue philosophique important, c'est l'effondrement d'idées de progrès. Je crois que, quand on prend les sondages, un certain nombre d'enquêtes d'opinion, on voit que ceux qui croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que leurs enfants vivront mieux qu'ils n'ont vécu eux-mêmes sont devenus minoritaires. Et donc, c'est la croyance dans le progrès collectif, qui s'effondre. Or, cette croyance dans le progrès, elle sous-tend les imaginaires politiques occidentaux depuis quasiment plus de 2 siècles. Et par conséquent, elle est en train de disparaître, et je ne pense pas qu'on mesure encore totalement les effets de cette disparition, de cette matrice structurante qu'a été l'idée de progrès. Je ne dis pas que cette idée de progrès disparaît, on la retrouve toujours de manière résiduelle, mais elle n'occupe plus la position matricielle qu'elle a pu occuper auparavant. Et par conséquent, on a une montée en puissance de préoccupations qui sont plus conservatrices. Le local, retour à la notion de territoire, la sobriété, le rapport à la terre, etc., etc. Et ça aussi, c'est favorable au catholicisme conservateur qui finalement voit un certain nombre de ces thèses qui se trouvent validées ou qui reprennent une légitimité dans ce contexte intellectuel. Vous savez, c'est très intéressant d'observer les trajectoires d'un certain nombre d'intellectuels de gauche, venant par exemple de la gauche antitotalitaire, comme Alain Finkielkraut, et qui, comme l'a écrit Daniel Lindenberg, sont fascinés par le catholicisme le plus intransigeant. Et quand on surveille bien, quand on les écoute bien, ils aiment bien caser un peu du Joseph de Maistre par-ci, du Joseph de Maistre par-là, et un certain nombre de penseurs antimodernes. Mais pourquoi ? Parce que ces penseurs antimodernes ont posé la question de l'individualisme, et donc s'avère être une ressource dans ce moment. Et puis, je dirais, et je vais bientôt m'arrêter, qu'il y a aussi une question civique. Une question civique. C'est, vous savez, c'est très intéressant ce qui s'est joué autour de la mort du lieutenant-colonel Beltrame. Emmanuel Macron, dans son discours aux Invalides, a dit « La force d'âme est le rempart de la République ». C'est une forme d'expression typique. Et il a repris cette expression-là, quasiment, lors de sa conférence, deux semaines plus tard, son discours, pardon, deux semaines plus tard, aux Bernardins. Et donc, il y a cette idée que les bases civiques de la République sont fragilisées par une certaine dynamique, et que dans ce cadre, le catholicisme peut être une ressource. C'est-à-dire, certains le pensent, hein, c'est ça qui m'intéresse, de voir cette réaffirmation de la valeur civique de la République. Et donc, on observe aujourd'hui chez certains intellectuels, on trouve ça chez Rémi Brague, chez Jean-Luc Marion, chez d'autres, l'affirmation d'une... de la nécessité, et même chez Marcel Gauchet, d'une certaine manière, de l'opportunité d'une nouvelle alliance entre la République et l'Église catholique. Donc voilà, on trouve des dynamiques très intéressantes. Alors, je vais m'arrêter là, tout ça c'est minoritaire, ce sont des... Et par conséquent, ça ne m'étonne pas que ça ne se traduise pas par des élans, de manière électorale, ça ne se traduise pas de manière massive. Mais attention, les dynamiques militantes, les groupes qui pèsent, ne sont pas les masses. Et par conséquent, les élections ne sont pas le meilleur tribunal pour juger quels sont les groupes qui pèsent ou non. N'oubliez jamais tous les insuccès politiques qu'ont eu les Verts. Cela doit-il disqualifier les idées qu'ils portent ? Non, il reste une ressource. Et leur combat politique continue. Et c'est pareil. Je dirais que là, on a une dynamique maintenant de long terme au sein du catholicisme, de ce catholicisme conservateur qui monte en puissance. Mais qui monte en puissance non parce que ce catholicisme conservateur est en expansion, mais parce que ces catholiques arrivent à perpétuer la foi au sein de leur famille et parce que le contexte est favorable à une légitimation de leur discours, ce qui n'était pas auparavant le cas. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit de manière un peu iconoclaste et un peu provocante dans l'introduction de ce livre qu'aujourd'hui, la minorité réformatrice, enfin la minorité réformatrice, alors le mot réformateur n'est peut-être pas très bien choisi, enfin en tout cas la minorité active, ceux qui occupent la position de minorité créative, de minorité active qu'occupaient les catholiques de gauche ou les catholiques progressistes dans les années 70, eh bien ce sont plutôt les catholiques conservateurs. Voilà. Cela ne dit rien du destin de ce mouvement. Mais, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de contre-révolution, la force quand même de ces catholiques, c'est que dans un contexte de déclin de la pratique, ils arrivent tendanciellement, comparativement aux autres univers de sensibilité catholique, ils arrivent à transmettre la foi et ils arrivent à se perpétuer. Et c'est en ce sens que je parle de contre-révolution. Pour reprendre Joseph de Maistre, je vais citer à mon tour, la contre-révolution, ça n'est pas une révolution en sens contraire, c'est pas le retour au passé, c'est le contraire d'une révolution, c'est la perpétuation d'un ordre. Cette minorité catholique, elle arrive à se perpétuer une certaine conception de l'ordre. Et cette conception de l'ordre, elle semble redevenir une ressource potentielle en raison, je dirais, des changements à la fois de paradigme philosophique et des transformations qui affectent les sociétés européennes. Voilà, j'ai fini.
Merci. Merci. Je pense que... On a très bien vu, en effet, Yann, cette façon de rappeler le parcours historique qui nous a amené à ces phénomènes qui étaient la manif pour tous. Moi, quand j'ai lu votre bouquin et quand je me suis replongé dans la somme de Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel, j'avais l'impression qu'on était en effet dans deux univers très différents. Nous sommes pourtant toujours en train de parler des mêmes communautés. Alors, j'ai un petit indice, mais Denis Pelletier va me dire si c'est un mauvais indice ou s'il est trop réducteur. Là, on parle de contre-révolution catholique. Et là, on parle des chrétiens de gauche. C'est vrai que cette expression chrétien de gauche est plus courante que chez les chrétiens de droite. Denis Pelletier, vous allez apporter bien sûr votre contrepoint au bouquin de Yann Raison du Clusium, mais vous allez aussi vous servir de cette somme qui parcourt beaucoup plus de manière beaucoup plus vaste, qui parcourt de manière beaucoup plus vaste ce parcours des chrétiens, donc dont les catholiques, depuis la résistance, pour aboutir au phénomène de la manif pour tous.
Merci. Est-ce que vous m'entendez?
Je vais vérifier.
Il n'est peut-être pas branché. J'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte assez peu et je n'aime pas la lever. Je vais essayer de parler près du micro.
Ça va là?
Donc vous me dites si vous avez des difficultés à m'entendre, mais là je pense que ça doit aller. Je vais essayer d'être, de ne pas être trop long, de ne pas parler plus d'un quart d'heure pour qu'on puisse discuter ensuite. Mais Yann a eu raison de prendre son temps. Moi, mon plaisir ici, c'est plutôt de parler de son livre et de la manière dont on peut comprendre son livre au regard de l'actualité et de ce qu'il apporte à notre compréhension de l'actualité. Le collectif qu'on a fait avec Jean-Louis et beaucoup d'autres, dont Yann, il est un peu plus ancien. Et donc, oui, s'il faut parler des catholiques de gauche, j'en parlerai. Mais j'ai plutôt envie, effectivement, de réagir à ce que dit Yann. Et peut-être, c'est pas la première fois qu'on a une discussion avec Yann, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je trouve que son livre est important. Mais comme on est là pour discuter, je vais essayer de me glisser dans les interstices et de les transformer, si possible, en désaccord. Et c'est vraiment un peu de la rhétorique, c'est-à-dire c'est pour permettre la discussion. Je trouve ce livre extrêmement intéressant et extrêmement important, et je dirai aussi pourquoi tout à l'heure je trouve que le livre sur les... Bon, peut-être j'aurai l'occasion de dire pourquoi je trouve que l'enquête qu'il a faite avec vous, la confrontation est aussi une enquête importante. J'aurais suivi, j'avais préparé quelque chose, mais je vais réagir puisque tu as dit des choses que j'aurais dites, donc je vais essayer de me glisser donc dans les interstices. Mais d'abord, oui, le vrai événement intéressant, c'est comment le catholicisme revient dans l'actualité. Et moi, je me souviens d'une discussion avec René Raymond en 2004, c'était en 2005, c'était à la Procure autour d'un bouquin à lui et d'un bouquin à moi, et on parlait surtout d'un bouquin à lui, et c'était normal. Et il était extrêmement malheureux. René Raymond, à la fin de sa vie, était extrêmement malheureux de ce nouvel antichristianisme parce qu'il avait le sentiment que lui, qui avait été toujours un libéral, un catholique libéral, était pris à contre-pied par des gens qui profitaient de son libéralisme pour en quelque sorte l'attaquer et attaquer l'univers qu'il avait défendu. Et ça avait été une discussion très intéressante parce que je lui avais fait remarquer de manière un tout petit peu provocante que peut-être il ne devait pas en être si triste parce que la polémique d'Onfray lui redonnait la parole à lui, René Raymond. Et je pense que c'est là la chose intéressante dans ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, c'est la manière dont effectivement la polémique anticatholique fait aussi partie de ce qui redonne la parole catholique. Et je pense que pour comprendre la situation actuelle du catholicisme, il faut en permanence en sortir de ce catholicisme. Ça, j'y reviendrai. Par ailleurs, les voies du retour, je partage totalement les aux voies du retour que Yann a signalé tout à l'heure, et notamment la question du mariage des personnes de même sexe, les débats autour du mariage des personnes de même sexe. Je crois qu'il faut en ajouter une ou deux autres. D'abord, même si nous n'en parlons pas ce soir, peut-être que nous n'aurons pas envie d'en parler, la crise autour des abus sexuels à l'intérieur du clergé fait partie du retour du catholicisme dans l'actualité, et c'est à mes yeux un problème politique. Ensuite, ça je le laisse de côté. Ensuite, je voudrais signaler deux autres choses. Ce qui a rendu au catholicisme son actualité, c'est aussi l'attentat contre le pays qui a coûté la vie au Père Amel. C'est aussi l'attentat qui a coûté la vie au Père Amel. Ce que, au travers de cet attentat, les gens ont découvert dans la presse de ce que pouvait être la vie d'un prêtre. Et je pense que ça n'est pas secondaire. C'est aussi la manière dont ça a réanimé l'émotion qui avait eu lieu quelques années auparavant autour de l'assassinat des moines de Tibérine. Et c'est aussi cette messe qui a lieu à Notre-Dame de Paris, où le cardinal 23, même si à un moment, peut-être sous le coup de l'émotion, il dérape sur des questions dont il n'aurait pas dû parler, à un moment où le cardinal 23 est en face de tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire les laïcs, les francs-maçons, les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants, les non-croyants, tout le monde. Et tout le monde est là pour dire, ici à Notre-Dame, les gens qui cherchent à nous diviser, ça fait aussi partie du retour d'intérêt pour le catholicisme. Et ce n'est pas un retour à droite. Et j'ajouterais que dans la crise des migrants, dans la crise actuelle des migrants, alors nous manquons encore d'enquêtes précises, mais dans la crise actuelle des migrants, qui est si difficilement prise en charge par la classe politique, une bonne partie des réseaux militants traditionnels du catholicisme se sont mobilisés. Ces réseaux militants traditionnels affaiblis parce qu'ils sont devenus minoritaires, continuent d'être capables de se mobiliser. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est attentif au catholicisme. Parce qu'il sait très bien que cette crise des migrants n'est pas terminée et qu'il aura besoin de mobiliser du monde pour essayer que ça passe. Parce qu'elle n'est pas terminée. Donc je pense que le retour, il est plus large. Il n'est pas seulement un retour par la droite et par l'inquiétude, et par le caractère inquiétant des catholiques. Et ça renvoie évidemment à ce sur quoi j'ai travaillé sur les catholiques de gauche. Et j'ajouterai un dernier point. Notre-Dame de Paris est un moment extrêmement intéressant. L'incendie de Notre-Dame de Paris est un moment extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame de Paris, c'est le prototype de l'émotion collective. L'émotion collective, nous avons tous toutes les bonnes raisons de nous en méfier. L'émotion collective, ça a un élément intéressant. C'est que dans le moment de l'émotion collective, toutes les lectures de l'événement se valent. C'est-à-dire que pendant quelques heures, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas construit par des représentations collectives ensuite, mais pendant quelques heures, toutes les manières de s'approprier le bâtiment qui flambe se valent. Toutes les voix se valent. Les voix des gens compétents, moi j'y étais allé voir parce que c'est mon métier. J'ai appris que ça brûle, je suis allé voir, c'est mon métier. Et puis Libération m'a téléphoné tout de suite et j'ai dit j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce qu'il y a un moment où toutes les voix se valent. C'est-à-dire celui qui sait, celui qui est censé être compétent, n'a pas plus de capacité à dire des choses que celui qui n'est pas compétent. C'est ça l'émotion collective. Mais le moment où toutes les voix se valent, c'est aussi le suffrage universel. Le vote au suffrage universel, toutes les voix, quelle que soit la compétence des uns et des autres, toutes les voix se valent. Et donc dans cette émotion collective, il y a dans certaines émotions collectives, pas dans toutes, quelque chose à travers de quoi se refabrique de la démocratie. Et ça, c'est intéressant que Notre-Dame de Paris le produise. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'ensuite, la politique ne reprend pas son cours. Ça ne veut pas dire, il y a plein de manières d'exprimer son émotion, et toutes ne sont pas aussi séduisantes. Enfin bon, il y a plein de choses. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'ensuite, les affrontements ne reprennent pas leur cours. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Et ça veut dire autre chose, qui pour moi est très important pour comprendre le catholicisme actuel. C'est que si on peut aimer Notre-Dame parce qu'on aime Victor Hugo, ou parce qu'on est ému par... parce qu'on est ému par Esmeralda, Quasimodo qui l'aime en silence, ça peut être pour plein de raisons. Toutes ces raisons se valent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la caractéristique de l'actualité, c'est que les catholiques ne sont plus les propriétaires de leur histoire. Ils ne sont plus les propriétaires exclusifs de leur histoire. Et pour moi, qui m'intéresse à la place du catholicisme dans la vie politique, cette question-là est fondamentale. Et elle pèse sur toute la dimension patrimoniale qu'on attache aujourd'hui à l'appartenance catholique. L'idée que les catholiques ne soient plus les propriétaires de leur histoire est une idée tout à fait fondamentale pour comprendre l'actualité des choses. Ça, c'est un peu des compléments, Yann, à ce que tu dis. Et dans ce que tu as dit, à la fin, on va y paraître. En fait, tu as parlé d'islam, tu as parlé de ces choses-là. Et tu sais ce que je pense de ton travail. Encore une fois, je carre un peu nos désaccords pour qu'on puisse ensuite discuter de façon plus amusante, parce que le principal but dans la vie, c'est quand même de s'amuser. De choses là, c'est quand même prendre du plaisir. Comment les lignes bougent ? Alors, à partir du moment où le catholicisme sort, dès que j'arrive à un quart d'heure, vous m'arrêtez, s'il vous plaît, parce que je veux qu'on puisse discuter. C'est pas grave si je dis pas tout et si j'ai pas. Quand il faudra finir, je dirai pourquoi je trouve son bouquin bien. Comme ça, je l'aurai dit et on pourra discuter ensuite. Alors, comment les lignes bougent ? Dès lors que l'histoire des catholiques ne leur appartient plus, il faut en sortir en permanence pour la comprendre. Alors, je vous propose. Au fond, dans le retour du catholicisme, si on met en relation le retour d'intérêt pour le catholicisme et l'évolution de la vie politique aujourd'hui, on a trois choses. On a la manière dont notre sphère politique est traversée aujourd'hui par une une véritable interrogation sur l'opposition droite-gauche. Et là, je peux parler des catholiques de gauche. Mais on voit bien comment la question du rapport droite-gauche, on l'a vu à travers les dernières élections, est en train de se poser de manière très aiguë. Je ne suis pas sûr que l'opposition droite-gauche disparaîtra. Et il n'y a pas besoin de mobiliser la science politique pour ça. C'est un problème de disposition. Il faut bien que les députés s'asseignent. Cela dit, on a eu dans les années 40-50 un système de tripartisme. Et le rêve d'Emmanuel Macron, c'est de rétablir un système de tripartisme. Et on voit bien comment à droite, la question se pose autour de la frontière entre les Républicains et le Front National. Et c'est ça aussi une partie du travail de Gamme. Et on voit bien comment à gauche, ça se pose autour de l'effondrement du PS. Et ça me permet de parler des catholiques de gauche. Et de leur disparition. Et de cette chose qui moi, me frappe toujours, qui est la manière dont la génération des catholiques de gauche a intériorisé l'idée de son propre échec. C'est une chose qui me désole. Enfin, en même temps, quand je suis devant eux, je peux leur faire plaisir. C'est toujours agréable. Mais je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qui permet de dire qu'il y a un échec politique des catholiques de gauche. Oui, ils n'ont pas réussi à conquérir le PS. Eh bien, voyez ce qu'est le PS aujourd'hui. Faut-il le reprendre? C'est pas sûr. Oui, ils n'ont pas réussi à conquérir le PS, c'est évident. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les catholiques? Il y a toujours eu des catholiques à gauche. On peut faire une longue tradition des catholiques à gauche. Et ils ont toujours été minoritaires. Et ils le sont. Et il y a un moment très précis où, bien que minoritaires, ils pèsent lourd dans l'histoire de la société française. C'est ce moment des années 60-70, au cours duquel, à la suite à la fois de l'effondrement du modèle soviétique d'un côté, et à la suite des compromissions de la SFIO dans la guerre d'Algérie, la gauche se recompose. Et comme la gauche se recompose, elle ouvre ses portes à des gens qu'elle a toujours tenus à l'écart. Et à ce moment-là, il y a une génération de catholiques portés par le Concile, qui leur a ouvert des portes aussi, qui se retrouvent à la manœuvre. C'est toute l'histoire de la deuxième gauche et des catholiques de gauche. Et oui, Mitterrand, qui connaît bien le catholicisme, mais de droite, s'en débarrasse. C'est-à-dire les marginalise. Et ils perdent. Ils perdent parce qu'ils ont apporté autre chose que des stratégies de conquête de pouvoir. Mais en termes d'héritage, et si on veut parler en termes d'héritage, je me méfie toujours de la pensée en termes d'héritage et en termes de transmission, parce que je pense qu'on ne transmet pas les patrimoines de valeur comme on transmet des meubles et des biens immobiliers. Je pense que ça fonctionne autrement. Mais la gauche catholique importe, et ça c'est parlez-en avec les historiens du PS, la gauche catholique importe à l'intérieur du PS quelque chose. D'abord, importe un débat sur les valeurs. Qui est toujours l'actualité? C'est la gauche catholique à laquelle on reproche d'avoir été invisible. Qu'est-ce que ça veut dire avoir été invisible? Ça veut dire simplement avoir inventé une forme d'appartenance religieuse qui ne se revendiquait pas comme une identité. Et moi, je pense que cette forme d'appartenance religieuse catholique à l'intérieur de la gauche, qui ne se revendiquait pas comme une identité catholique, elle a une actualité aujourd'hui. Donc j'ai des réserves à l'égard de l'idée de l'échec et de la disparition des catholiques de gauche. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les catholiques de gauche, les catholiques de gauche, l'expression catholique de gauche, c'est une génération. Et les générations, je suis désolé de dire, meurent. Vieillissent et meurent. Donc, il n'y a plus de catholiques de gauche. Et c'est normal. Mais il y a un héritage qui me semble tout à fait pertinent et qui continue de travailler à l'intérieur de la classe politique. Et donc, Et pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je vous donne rendez-vous, enfin non, on ne sera plus, nous, mais Yann ne sera peut-être encore, dans 30 ans, on verra ce que diront les catholiques de droite de la Manif pour tous, de leur succès ou de leur échec. Dans 30 ans, on verra. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc voilà, là, il faut sortir du catholicisme pour comprendre le catholicisme. Ce qui est en jeu, c'est la recomposition de la sphère politique. La recomposition de la sphère politique se joue aussi sous l'effet de la question du genre. Et là, je partage entièrement ce que tu as dit, Yann, sur la manière, on va dire, dont les politiques de la vie et les politiques du genre ont affecté l'édifice même de la laïcité. Avec cet effet extrêmement intéressant, qui est que À partir du moment où la politique s'intéresse à la sphère de l'intime, car les politiques de la vie, c'est des politiques qui s'intéressent à l'intimité. À partir du moment où la politique s'intéresse à la sphère de l'intime, de tout un tas de manières différentes, hein, c'est la politique de qu'est-ce que c'est que mes tissus, qu'est-ce que c'est que mon corps, c'est le politique qui a quelque chose à dire avec mon corps, c'est a quelque chose à dire sur mon corps et qui peut légiférer. Tous les débats sur la bioéthique. À partir du moment où le politique a quelque chose à dire sur la vie privée, c'est-à-dire que le politique a quelque chose à dire sur le fait que je ne peux pas taper sur mes enfants comme ça librement, que la relation homme-femme à l'intérieur du couple peut être une relation de type démocratique, c'est-à-dire égalitaire, etc. Il y a un brouillage de la frontière entre la sphère privée et la sphère publique. Et ça affecte la laïcité. Et d'un certain point de vue, ça dépossède le catholicisme d'une partie, et les religions dans leur ensemble, d'une partie de leur magistère. Car cette sphère intime, c'était les religions qui s'en occupaient. La naissance, la maladie, la mort. Et le politique s'en charge désormais. Donc oui, il y a une forme de dépossession. Mais en retour, dans la politique, il y a la possibilité de revenir en tant qu'un des groupes qui argumente. C'est-à-dire en tant que porteur d'un enseignement là-dessus, pensé là-dessus. Donc, ayant la possibilité d'intervenir. Et tous les débats récents sur la manif pour tous, sur le Pax, sur la PMA, etc., relèvent de cette évolution. Et donc ça pose aussi des problèmes en interne à l'Église. Et c'est pourquoi il est important de ne pas dire, et c'est une des qualités de Yann de ne pas le dire, de ce bouquin de ne pas le dire, que le courant le plus conservateur de ce point de vue est peut-être aussi un courant minoritaire. Une minorité à l'intérieur de la minorité. Et ensuite, il y a toute une série de problèmes qui se posent, qui sont des problèmes d'ecclésiologie, de théologie morale, etc., et de pastoral. Mais voilà, les choses sont complexes de ce point de vue-là. Et le troisième détour que je ferai pour sortir du catholicisme, pour le comprendre, c'est le détour par ce que moi j'appelle la globalisation du monde. C'est-à-dire, on peut dire la mondialisation, si vous voulez. J'aime pas le mot globalisation parce que je le trouve très idéologique, mais j'aime pas le mot mondialisation parce que je le trouve très franco-français. Alors je fais globalisation du monde, mais vous voyez de quoi je parle. Le détour par la globalisation du monde, qui est une nouveauté, ça n'a rien à voir avec l'universalisme catholique. C'est pas la même chose. Parce que le principe de la globalisation, c'est qu'il n'y a plus de centre. Alors que le principe de l'universalisme, c'est qu'il y a un centre. Et le centre, c'est Rome. Et donc on est dans autre chose. Or dans ce contexte-là, on voit ressortir à l'échelle globale toute une série de débats, à l'échelle globale et à l'échelle locale. Toutes les questions identitaires dont tu parles relèvent, ont une composante globale. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe en France, du point de vue politique, dans ces domaines-là, sans avoir en tête le fait que ces combats sont des combats globaux. C'est-à-dire que le combat sur le genre, le combat sur la vie, c'est pas seulement un combat franco-français. Regardez ce qui s'est passé au moment du synode sur la famille 2014-2015. Et la manière dont les camps se sont constitués à l'intérieur de ce synode. Autour notamment de la question de l'homosexualité, dont il ne fallait pas parler. Et autour de questions qui, vues de l'extérieur, paraissent très secondaires. Est-ce que les divorcés peuvent retourner à la communion ? On a la même chose dans l'anglicanisme, sauf que les débats ne sont pas du tout au même niveau. Mais la manière dont tous les débats internes au catholicisme doivent tenir compte ensuite de la globalisation du monde est extrêmement importante. Parce que ça permet de relativiser ce qui se passe en France. Comme je pense que j'en suis au quart d'heure, oui. Je vais dire maintenant pourquoi je trouve que le travail de Yann est... J'ai essayé de carrer un peu... J'ai essayé de me mettre dans les interstices de ce que fait Yann. Pour moi, dans le travail de Yann, il y a deux ou trois choses qui sont vraiment très importantes. D'abord, le bouquin qu'il a fait avec Confrontation, qui est un livre. C'est la première enquête depuis. Ça faisait longtemps que plus personne n'osait